Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre invitation. Merci pour ces louanges, ces lectures, ces prières. Que le Seigneur encore cet après-midi soit béni. Qu'il puisse aussi nous bénir par sa parole, nous exhorter, nous conforter, nous permettre encore de nous rapprocher davantage de lui et apprendre encore un peu plus de lui. Et en cette après Pâques, après ce grand événement, indispensable pour tous les chrétiens, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Oui, parce que Jésus sur la croix, il a été crucifié, il a dit tout est accompli. Les Écritures ont été accomplies, les promesses ont été accomplies, les prophéties, hein, souvenez-vous de la description vraiment très précise que nous avons lue dans Ésaïe, est vraiment quelque chose d'un fait troublant et un fait marquant. Alors j'aimerais déjà m'arrêter sur une petite chose en relisant encore ces textes. Je me suis dit, mais bon, Jésus, d'accord, est crucifié, il est sur la croix. Il a passé un certain nombre d'années avec ses disciples, et je me suis dit, mais là au pied de la croix, ils sont où ces disciples? Ils sont où ceux qui se disaient Seigneur, Seigneur, je vais être le. Dis-moi, qui sera le premier, le plus grand dans le ciel? Est-ce que je serai à côté de toi, juste derrière? Qui c'est le plus grand? Et là, ils sont où? Alors, dans Marc, chapitre 15, verset 40, donc il y a une description de la scène, hein, Jésus, les deux brigands, puis quelques personnes en bas, notamment les soldats, puis il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Pourquoi de loin? Pourquoi pas de près? Et notamment, il y avait sa maman. Parmi elles était Marie. Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de José et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. On ne sait même pas qui. Mais ils sont de loin, ils observent. Souvenez-vous, Pierre a renié Jésus. Peu de temps avant. Non, je ne le connais pas. Trois fois. Ça nous laisse quand même une interpellation quelque part. Donc, où sont les disciples? Et puis, on continue un peu. Et puis, dans Luc, je me dis, mais après, mais qui est-ce qui s'est occupé du corps de Jésus? Ils sont où les disciples? Et on lit dans Luc 23, chapitre 50, Luc chapitre 23, verset 50, excusez-moi. Donc, verset 50, ça c'est l'ascension. Donc, juste avant, ce ne sont pas ses disciples qui ont réclamé le corps de Jésus. Non, c'est un homme qui était là. On le retrouve aussi dans Jean. J'ai mélangé un peu mes notes. Excusez-moi. Jean, chapitre 19. Mais après cela, voilà, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Et Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans ce jardin, un sépulcre neuf, d'où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Voilà. Voilà un peu où étaient les disciples. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas auprès de leur maître. Et puis, suite à ça, souvenez-vous, que se passe-t-il au moment de la résurrection ? Que se passe-t-il au moment de la résurrection ? C'est quand même assez surprenant, assez étonnant de voir ce qui se passe. Souvenez-vous, les femmes arrivent et le tombeau est ouvert, la pierre est roulée. Et un ange leur dit, mais cherchez qui ? Alors Jésus est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il était couché. Il n'y avait plus rien. Le corps n'était plus là. Et pendant qu'elles étaient en chemin, Matthieu 28, verset 11, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Oh mince! Mince! Mince, parce que ça s'est réalisé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent donnés, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. On a voulu faire en sorte, on a voulu décrédibiliser la résurrection de Jésus. Sa mort, certes, elle était avérée, mais sa résurrection, il fallait la cacher. Il fallait mentir, il fallait tricher, il fallait truquer. Il fallait inventer notre histoire, détourner la suite. Et il a fallu se justifier. Même Paul, dans 1 Corinthiens au chapitre 15, il écrit « Si l'on prêche que Jésus est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous puissent-ils dire qu'il n'y a point de résurrection des morts ?» S'il n'y a point de résurrection des morts, alors Christ non plus n'est pas ressuscité. Parce que pour beaucoup, la résurrection des morts n'était pas possible. Et pourtant, Jésus a dit, il est le prémisse, c'est le prémisse, le premier signe de la réalité de la résurrection des morts. Et Paul rajoute, il insiste et il tourne dans tous les sens, il dit, mais si Christ n'est pas ressuscité, ben, c'est même pas la peine d'être là devant vous et prêcher la parole de Dieu, parce que nous allons en couper une partie. Donc notre prédication est vaine et notre foi, elle ne sera pas complète. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et il le dit deux fois. Donc sa résurrection, elle a troublé toutes ces personnes, allant jusqu'à donner de faux témoignages. Les disciples, non plus n'y ont pas cru de suite. Ils étaient encore incrédules. Ils n'avaient pas imaginé la dimension des paroles de Jésus quand il a annoncé sa propre résurrection. Vous vous souvenez de cette scène dans Jean chapitre 20 ? Thomas dit « Moi, je ne croirai que si je vois. » Et encore, je ne croirai que si je touche, au cas où sa vision aurait été trompée. Alors Jésus dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Et il a fallu aller quand même jusqu'au bout de la chose. Touche-moi. Mais le Seigneur ajoute, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous n'avons pas assisté à la vie de Jésus sur terre, ni à ses prédications, ni à sa crucifixion, ni à sa résurrection. Et le Seigneur nous dit, heureux nous qui n'avons pas vu, parce que nous n'avons pas eu besoin de toucher pour croire. Et puis, dans un autre évangile, dans Luc 24, on retrouve deux disciples. Alors, on a l'impression qu'ils sont un petit peu éparpillés, un peu cachés, un peu honteux, un peu comme Pierre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et puis, est-ce que c'est vraiment vrai? Donc, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de ce qui s'était passé. Voilà, tiens, qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem, là? Hein, Jésus, tout ça, le prophète, il s'est retrouvé crucifié comme un brigand. Pourquoi? Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il y en a qui disent que, en fait, on a volé son corps. Et ils discutent, ils papotent de tout ça. Ils papotent. Et pendant qu'ils parlaient, ils discutaient, il y a Jésus qui s'approche d'eux, il fait route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Parce que Jésus voulait justement faire une étape intermédiaire, jusqu'à ce que leurs yeux s'ouvrent pour le reconnaître. Et il leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Ah, en plus ils sont tristes. Non seulement ils papotent, ils s'éloignent de Jérusalem, mais en plus ils sont tristes. Alors ils sont sûrement tristes d'avoir perdu leur maître, tristes de se retrouver orphelin, on va dire, tristes peut-être de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir quoi dire et comment le dire, et puis tristes aussi de s'assumer. Alors l'un d'eux, nommé Cléopas, répondit à Jésus, « Mais es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est passé ?»« Quoi ?» leur dit-il. Hein, Jésus insiste, hein, il veut savoir réellement le sujet de leur conversation. « Mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Ah, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avant tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Ah, ces fameux disciples, ils n'avaient pas compris grand-chose de la nature de Jésus. Et ils se sont arrêtés au fait que c'était un prophète, oui, il était puissant ce prophète-là, mais à aucun moment il dit que c'était le Fils de Dieu. Et nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ah oui, c'est ça! Celui qui chasserait les Romains. Peut-être qu'il ferait la guerre aux Romains, en chef, nouveau chef des armées. Il est vrai! Rajoute-t-il, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonné, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Oh là 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 là. Moi je me dis, ils n'ont pas l'air de croire grand-chose. Ouais, ils sont pas du tout assurés de la résurrection de Jésus. Pourtant, Jésus leur a dit, voilà ce qui va se passer. Il est vrai, hein? Il est vrai, mais surtout, les femmes, des fois, peut-être qu'elles racontent un peu n'importe quoi, elles s'emballent, hein? Alors voilà, il y a un ange, machin, tout ça, pof. Mais quelques-uns de ceux qui étaient avec nous, et pourquoi pas eux, sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Ah bah oui, heureusement. Mais ils ont besoin d'aller vérifier, hein, quand même, hein. Mais lui, ils ne l'ont point vu, forcément. Ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Voilà, en fait, c'est des saint Thomas aussi. Voilà. Le corps n'était pas là, mais non, c'est pas une résurrection, on ne sait pas. L'ange a dit qu'il était parti. Et Jésus dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et les prophètes, il est obligé de leur refaire la leçon de la naissance, la venue de Jésus et le pourquoi de sa venue et le comment et le parce que, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ils le pressèrent et lui dirent, ben, reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il resta avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors, à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent. Mais Jésus disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, on sentait quand même qu'il y avait quelque chose, le fait que cette personne nous parle de la façon dont elle nous parlait. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 qui étaient avec eux assemblés. Ah, là on retrouve l'équipe. Assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit du pain. Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même, Jésus, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et là, saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Qu'est-ce qu'il est difficile de croire, semble-t-il. Ils ont eu peur. Ses disciples ont eu peur. Pas quelqu'un que Jésus a croisé dans la rue, comme ça, en passant, ou sur un chemin, qui ne se serait jamais rappelé de la personne. Mais là, c'est quand même des gens qui ont passé 24 heures sur 24 avec Jésus pendant 3 ans. Je pense quand même que si nous avions fait cette expérience-là, nous aurions quand même le visage de la personne un petit peu imprimé dans notre mémoire. Ben là, non. Jésus leur dit, mais pourquoi vous êtes troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant ça, il montra ses pieds et ses mains. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un peu de miel. Il prit, il en mangea devant eux. Donc c'est pas un esprit. Un esprit ne mange pas. Un esprit ne montre pas son corps, meurtri. Jésus aurait-il changé? Même dans leur joie, ils étaient encore dans l'étonnement, ils avaient peine à croire. Puis il leur dit cela, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et là, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent ces écritures. Qu'ils comprennent les écritures. Pas simplement la lire. On peut lire la Bible. Vous pouvez demander à n'importe qui de lire la Bible. Mais qu'est-ce qui se passe là-haut et là, au cœur? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a la foi? Est-ce qu'il y a la croyance? Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, comme vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ça, c'est la Pentecôte, d'accord ? L'effusion du Saint-Esprit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Mais dis donc, mais qu'est-ce que c'était difficile ! Ces disciples ! Pas reconnaître Jésus ! Pas avoir compris ce que Jésus leur disait ! Par contre, pour savoir qui serait le plus grand dans le ciel, là, ils se posaient bien la question. Il y a quelque temps, nous avons partagé ensemble un message que j'avais intitulé « Pourquoi vous faut-il encore un miracle ? » Est-ce qu'aujourd'hui, il nous faut encore un miracle pour se dire « Oui, Dieu existe. Oui, Dieu est vivant encore aujourd'hui dans ma vie. Seigneur, montre-moi que tu m'aimes. » Ou « Seigneur, montre-moi que tu prends soin de moi. » Mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible si on a ce genre de questions. Donc Jésus leur dit, allez maintenant, vous connaissez votre mission. D'abord, vous allez recevoir un équipement spirituel particulier, puis vous allez le transmettre aux autres. Et vous allez partager, vous allez propager la parole de Dieu. Jean chapitre 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples. Parce que Jésus est resté un certain temps. Jésus se montra alors encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra, Simon, Pierre, ainsi de suite. Ils étaient tous ensemble à la bande de copains. La bande de pêcheurs, mais pêcheurs de poissons, hein. Et Jésus s'est manifesté encore, s'est présenté encore à environ 500 personnes. Donc il y a eu des témoins. C'est pas juste 2-3 personnes, les illuminés disciples, parce que pour les autres, les disciples, ils étaient un petit peu... Mais enfin, comme c'était un noyau, on pouvait très bien leur dire qu'ils étaient complètement illuminés. Mais là, il y a quand même eu 500 personnes. De tous bords, de tous âges, il y a eu des témoins, des vrais témoins, disparates. Jésus est retourné près du lac, comme il l'avait fait au début de son ministère, pour recruter ses disciples. Tout est accompli, la boucle est bouclée. Il est allé chercher ses disciples, maintenant il va les revoir avant de les quitter définitivement. Et puis c'est là qu'il discute avec Pierre, vous vous souvenez de cette scène où il dit « Pierre, m'aimes-tu ? » « Pierre, m'aimes-tu ? » Voilà, Pierre, il ne devait pas se sentir bien. Nous avons partagé aussi cet épisode. Pierre, m'aimes-tu ? Ben oui, tu parles, Pierre, il l'avait réuni 3 fois quand même avant, au moment de l'arrestation de Jésus. Et là, le Seigneur lui dit, m'aimes-tu, Pierre ? Parce que quelque part, tu m'as un petit peu trahi. Parce que tu as menti. Tu as dit que tu ne me connaissais pas. Tu as dit, lui, je ne le connais pas. Je ne fais pas partie de sa bande. Moi, je ne suis pas un illuminé, hein. Attention. Me mettez pas dans le même bain, dans la même troupe. Donc là, Jésus, à plusieurs reprises, lui dit: Pierre, m'aimes-tu? Il ne devait pas sentir bien le garçon. Il devait avoir honte, puis il devait avoir mal. Il s'est réveillé avec tout ce que le Seigneur a fait pour nous, et nous, on l'a trahi quelque part. Là, on a vu que les disciples n'étaient même pas auprès de Jésus quand il avait, j'allais dire, quand il avait besoin de lui, enfin besoin d'eux, pardon. C'est comme nous, si nous nous retrouvons dans une situation difficile, on se retourne, et où sont mes frères et sœurs? Il n'y a personne. Tous m'ont abandonné. Pour faire la fête, il y a toujours du monde. Mais pour pleurer, il y en a beaucoup moins. Et enfin, quelles sont les conséquences de la résurrection? Pour Jésus, d'abord, il est déclaré le Fils de Dieu. Romains chapitre 1, verset 4, est déclaré le Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il est dit aussi, tout pouvoir lui est donné sur la terre comme au ciel. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est désormais assis à la droite de Dieu, couronné. Il rétablira son trône. Il reviendra. Et ça, croyons-le. Croyons-le. Quand Jésus a annoncé a rappelé sa venue, pourquoi son départ, ça s'est accompli. Jésus a dit à ses disciples, allez à Jérusalem, restez-y, dans quelques jours vous aurez quelque chose. Ils seront remplis du Saint-Esprit. Ça s'est accompli. Jésus a dit, je pars, je vous prépare une place, mais je reviendrai vous chercher. Il reviendra. Quand, on n'en sait rien. Puis à la limite, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, quelle importance. Il reviendra. Aujourd'hui, en 2017, en 5040, en 10800, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Par contre, s'il doit revenir aujourd'hui, prions pour que nous soyons prêts. Pour les croyants, la résurrection rend possible notre salut. Romains chapitre 4, verset 25, « C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en lui, en celui pardon, qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. » Et puis Christ intercède pour nous auprès du Père. Il est notre avocat, notre défenseur. Il est la résurrection et la vie. Il est vraiment ressuscité. Et je terminerai par ce verset dans 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Prémices, premier. Car puisque la mort est venue par un homme, Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, Jésus. Et comme tous meurent en Adam, nous mourrons tous. Ce n'est pas un mystère, ce n'est pas un secret, nous mourrons tous. De même aussi, nous revivrons tous en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, lors de son retour. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous ne soyons pas comme les disciples de Jésus à se dire, mais est-ce que c'est vrai? Amen.